Calade.
100.9.
En mode perma. Votre émission mensuelle consacrée à la permaculture.
Bonjour à tous et bienvenue en mode perma. Je vous accueille aujourd'hui à Calade et je suis en compagnie de Fanny Grange. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler du sol et on va essayer de comprendre pourquoi et comment préparer son sol pendant l'automne. C'est la saison idéale pour notamment préparer l'hiver, préparer des nouvelles parcelles sur son terrain et permettre au sol de s'enrichir de matière organique notamment, mais aussi de se décompacter, etc. On présentera Fanny se présentera, donc Fanny qui est de l'association Être en Herbe et qui travaille aussi à l'Oasis. On vous présentera aussi le livre du mois, comme à chaque fois, et là on va vous présenter La vie secrète des arbres, et avec une formule un peu spéciale, puisque on va partir du livre de Peter Wolben et on va arriver jusqu'à la bande dessinée qu'a illustrée notre voisin Benjamin Flau. Je vous présenterai aussi un projet, les balades commentées qui auront lieu dans le Beaujolais à partir de novembre. Et puis on ira faire un tour au Sénégal, comme prévu en fin d'émission, donc à Cabadio en Casamance, pour s'y retrouver rapidement pendant la saison des pluies. Alors Fanny, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Être en Herbe et puis faire un peu ce parallèle avec l'Oasis?
Oui. Moi j'ai mis en place une association qui s'appelle Être en Herbe. C'est dans l'idée de se sensibiliser à la nature, à l'environnement. On va utiliser un peu comme moyen de médiation le jardin, les soins des animaux, la nature, la création aussi, ça peut être la création végétale, pour faire du lien avec soi, entre enfants-parents. Et voilà, dans l'idée, c'est un petit peu ça.
Donc, ce n'est pas destiné uniquement aux enfants?
Non.
Les parents sont les bienvenus. Il y a donc comment ça se passe? Ça se passe où et sous forme d'ateliers?
Oui. Alors, une partie des ateliers se font à l'Oasis. Donc, on a des ateliers souvent les mercredis pour enfants-parents. Donc là, tout le monde peut venir s'inscrire. On parlera des dates tout à l'heure, quelques dates de fin d'année. Et on se déplace aussi dans les écoles, on fait des animations de jardinage au sein des écoles avec les enfants, dans les centres de loisirs. Il y a aussi des centres sociaux qui peuvent venir programmer des animations chez eux ou à l'Oasis. On peut aussi se déplacer pour des particuliers qui ont besoin de conseils plus vraiment pratico-pratiques, de jardinage, tout ça, de mettre en place ce petit potager. Voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près ça.
Alors, quand tu dis « on », vous êtes combien dans cette association à pouvoir intervenir, justement?
Eh bien, jusqu'à présent, j'étais un petit peu toute seule pour faire les animations, mais là, depuis peu, on accueille Camille Petit-Jean, qui Super. Va aussi prendre une bonne partie des animations.
Ok, tu peux nous présenter rapidement, Camille?
Ouh là oui, Camille, elle fait plein de choses. Elle fait entre autres de la poterie, travaille dans les vignes. Elle fait aussi, elle est fleuriste, elle fait des savons. Elle a une formation d'éducation à l'environnement, donc c'est vraiment la femme de la situation.
C'est génial.
Ouais.
Ok, donc elle va pouvoir démarrer avec toi des ateliers et oui. puis enchaîner aussi sur des propositions. Alors quand tu dis on se retrouve à l'Oasis, est-ce que tu peux nous représenter la structure oui. de l'Oasis à Glaizé, du coup, dans le Rhône?
Oui, donc l'Oasis, ça a pour premier objectif d'accueillir des personnes en grande précarité. Depuis 1960, elle accueillait essentiellement des hommes. Et là, depuis juin, on accueille aussi des femmes. Donc il y a 46 personnes qui vivent sur place et qui sont remises en activité sur la partie recyclerie, bric-à-brac, le tri, l'entretien de la maison aussi, tout simplement. Et la ferme, donc la ferme où on a un troupeau de chèvres, de vaches, une dizaine de cochons. Et un jardin maraîcher. Et c'est là où moi, je suis. Donc, je travaille sur ce jardin. Je suis encadrante technique. sur la partie maraîchage. Et on travaille en sol vivant. Du coup, voilà, et grosso modo, toute la ferme et tout l'oasis, en fait, on peut dire que suivent les principes permacoles. On évite au minimum les sortants, le déchet, on retrie énormément, c'est voilà, une économie circulaire. On fait du lien entre, dès qu'on peut, on met en communication les différents secteurs pour utiliser les déchets, en faire des ressources. Voilà.
Ok, vous évitez aussi, j'imagine, les intrants, trop nombreux.
Oui. Bah, on a beaucoup d'intrants parce qu'on a beaucoup de dons. Du coup, l'oasis fonctionne sur les dons des personnes. Donc, pour tout objet matériel, on récolte, on revalorise s'il le faut et on remet en vente. Donc, ça, c'est pas négligeable, cette masse intrante.
Et l'intrant plutôt au niveau du sol vivant,
oui.
Du coup.
Et sur la ferme, en effet, donc on a 20 hectares en tout parce que. Mes collègues font aussi les grandes cultures pour produire la nourriture des animaux, le foin. Moi, j'utilise aussi une partie du foin, une grosse partie du foin pour nourrir les sols, pour pailler, en fait. Et du coup, oui, on a peu d'intrants. On a aussi notre fumier qui est utilisé donc, dans le jardin. Le fumier des chèvres et des vaches est utilisé directement dans le jardin. Donc on a très, très peu d'intrants. Ouais.
Donc tu l'as dit, c'est une économie circulaire et on voit à quel point ça peut être riche puisqu'il y a donc l'humain au cœur de tout ça puisque vous accueillez effectivement des personnes qui ont besoin d'être accueillies à ce moment-là et puis qui peuvent du coup partager leurs expériences et puis aussi leurs forces. Et puis effectivement, quand on passe de la chèvrerie au jardin, ben, les déchets du sol, le fumier qui va finalement enrichir le jardin, c'est sacrément vertueux en fait comme cercle.
Oui, c'est ça qui est très gratifiant.
Ok. Et inversement, j'imagine que tout ce qui sort du jardin, qui n'est pas forcément utilisé, ou tout ce qui passe par la cuisine, parce que toutes ces personnes-là, donc tu parlais d'une quarantaine de résidents communautaires, ils sont nourris aussi à l'oasis. Donc vous fournissez les légumes, vous fournissez de la matière en fait pour
on
ça.
On essaye au maximum de passer en premier les produits à la cuisine. Donc fromage, un petit peu de viande et les légumes. Donc ça c'est voilà et après on vend sur place on a un petit marché là, devant la fromagerie où on vend sur place aussi.
Il y a d'autres débouchés pour les produits qui sont produits à l'Oasis.
Et oui, il y a aussi Biomonde qui Saveur Nature Biomonde qui on livre une bonne partie des fromages et des légumes. Il y a les Colibris à Thésée aussi et au Bon Vieux Temps à Franc.
Ok, donc toutes des petites structures qui finalement permettent aux gens de manger du bio et du local parce qu'on se rend compte que c'est un petit peu aujourd'hui l'idéal en termes de consommation. Qu'est-ce que tu en penses?
Et oui, et puis on essaye de pratiquer des prix raisonnables aussi, même si ce n'est pas toujours évident. On essaye, mais oui, moi je pense que pour prendre soin de soi dans cette optique-là, la nourriture c'est un des premiers leviers.
Alors, on parlait des humains, et du coup, bah, ça, pour revenir un petit peu à être en herbe, qu'est-ce que tu proposes comme atelier, du coup, là, ces semaines, et quel est le calendrier en général? Comment ça se passe pour que les enfants, là, et leurs parents puissent aller à ta rencontre et à celle de Camille dans les mois qui viennent?
Oui, alors là, on n'a pas beaucoup de dates parce que c'est un peu la fin de l'année, et voilà, avec la saison qui, normalement, à un moment donné, se rafraîchir.
A priori.
Peut-être pas. On a un atelier le 31 octobre pour les tout-petits. Donc là, c'est vraiment les de 0 à 3 ans. Donc ça peut concerner les assistantes maternelles aussi. Et le 1er novembre pour enfants-parents. Donc là, tout le monde est bienvenu. Ça, voilà, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, quand les enfants marchent, ils peuvent suivre jusqu'à... Il n'y a pas d'âge, quoi.
Alors, quand tu dis « ils peuvent suivre », ça veut dire que, du coup, il y a des endroits dédiés dans la ferme à ça, à ces activités.
Généralement, on commence par un petit temps de jardinage. Donc, il y a un petit jardin créé par les enfants et on en prend soin. Donc, en ce moment, on refait un peu une beauté au jardin où c'est un peu la fin de l'été. On coupe les tournesols, on les met en paillage, on replante des petits choux, voilà, on fait des petites choses comme ça. Après, on va souvent nourrir les cochons. On leur donne le petit lait, qui est un déchet de la fromagerie. Quand on fait du fromage, on génère beaucoup de petit lait. Et les cochons en raffolent. C'est pour ça qu'on a les cochons, d'ailleurs, uniquement.
Pour recycler le petit lait, finalement.
Voilà.
Puisqu'on sait qu'on nourrit les cochons au petit lait.
Et on fait donc un peu de viande pour un peu valoriser.
Comment ça se passe, les enfants et les cochons? C'est pas trop impressionnant?
Et bah, moi, les enfants m'impressionnent en tout cas, parce qu'ils y vont. Hein. Ça fait un peu peur, mais ils y vont, ils donnent franchement. Alors que les cochons, en plus, sont très très gourmands. Alors, se chamaille un peu pour être le premier servi, mais ils y vont.
Parce que là, vous avez des cochons de au moins 6 mois, du coup,
oui,
pratiquement.
Ah oui, ils ont bien 9 mois.
Ah oui, déjà, ouais. D'accord. Donc, ouais, c'est déjà des beaux bestiaux, on va dire.
Ouais.
Bon, ok. Qu'est-ce que tu parlais du 31 octobre, mais alors du coup, les enfants viennent avec une courge ou repartent avec une courge pour Halloween, ou comment ça se passe?
Oui, dans l'idée, là, on a quelques courges, donc on va même pouvoir en décorer un peu.
Ouais, sympa.
Oui. Et puis souvent, on finit aussi par aller nourrir les vaches. On a 2 vaches et les chèvres.
D'accord. Un tour avec donc, les chèvres. Donc, ça fait une belle balade.
Oui, voilà. Donc, on va un peu se balader dans les champs, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu suivre. Mais avec les tout-petits, ça marche aussi.
Ouais.
On va juste plus doucement. Ils sont très contents aussi.
Un autre rythme.
Oui.
Donc, tu parlais des assistantes maternelles. Donc, oui, effectivement, en fait, finalement, toutes les personnes qui peuvent accompagner des enfants et venir. Oui. Comment ça se passe? C'est payant? C'est un abonnement?
Oui.
Ou comment ça
c'est
fonctionne?
C'est souvent 10 euros par enfant. Le gratuit pour les adultes ou participation libre pour les adultes, pour les récoltes et tout ça. On repart rarement les mains vides après un atelier. Et pour les assistantes maternelles, il y a un prix dégressif. C'est 5 euros à partir du deuxième enfant.
D'accord.
C'est tout écrit sur le site de Être en Herbe. Être en Herbe avec des tirés du 6 et webador.com.
Ok, on retrouvera de toute façon tout ça sur le site de Calade. Eh bien, merci pour cette large présentation. Est-ce que tu veux ajouter autre chose sur Être en Herbe que tu aurais oublié?
Oui, bon, je voudrais présenter Rafale. C'est une jument qu'on accueille là depuis peu pour nous aider à travailler justement dans les champs des céréales, pour planter les céréales. Et c'est une jument qu'on va se partager entre différents paysans du coin.
Pour la traction, du coup.
Voilà. Traction animale. Et donc en ce moment, elle est à l'oasis, elle va tourner entre vignerons, maraîchers, brasseurs, parce qu'il y a la brasserie de Nice, la Fauleuse aussi. Voilà.
Donc là, les enfants, ils sont en contact aussi donc, de l'animal. Ça doit être assez exceptionnel. Ouais.
Oui, c'est une belle bête, cette rafale.
Super. Bon, merci. Et on fera la transition peut-être du coup avec le travail du sol de rafale. Et puis la deuxième partie de cette émission pour comment préparer et pourquoi préparer son sol. Merci, Fanny.
J'aurais pu naître vert d'automne, pourquoi pas descendre d'un coléoptère, tralala. J'aurais pu vivre sans mon phare, pianissimo, en creusant d'être sous la terre, incognito, même, voilà. Avec mon âme animal, amour perdu, cœur sans dessous dessus. J'aurais pu être un lion superbe, dangereux, bronzer ma vie sous des soleils paresseux, échanger chaque jour de forme sans histoire, et faire le bien comme le mal sans le savoir, mais voilà. Avec mon âme animal, amour perdu, cœur sans dessous dessus. Aujourd'hui que tu me quittes sans préavis, j'ai l'impression que tout s'effondre dans ma vie. Et je maudis celui qui m'a failli comme je suis, avec ce cœur qui se lamente sous la pluie. J'aurais pu naître vert d'automne, pourquoi pas descendre d'un coléoptère, mais voilà. Avec mon âme animal, me voilà. Avec mon dessous dessus.
Vers de terre de la famille Chédid. J'espère que ce morceau vous a plu. Il va nous permettre d'avancer sur le sujet du sol. Parce que le sol, ça représente une quantité astronomique de la surface du globe. Et c'est ce qui, aujourd'hui, encore plus que les arbres et encore plus que les êtres vivants, eh bien, permet de faire vivre notre chère planète. Le sol, on le prépare. Le sol, souvent, il existe déjà. Il vient de la roche-mère, il vient de plein d'années de mélange. Et du coup, il nous permet aujourd'hui, en tout cas, le sol, de nourrir nos plantes. Il nous permet de nous nourrir. Et ce sol-là, il va passer l'hiver, il va passer l'été, il va être labouré, il va être retourné. Et de la manière dont on va organiser ça, eh bien, on n'aura pas forcément les mêmes résultats. Et puis surtout, on ne va pas forcément en prendre soin de la même manière. Alors aujourd'hui, on se rend compte, après une cinquantaine d'années de culture intensive, que le sol a bien, bien, bien souffert. On a perdu beaucoup de sol finalement, puisque le sol, quand il y a des grosses pluies, quand il y a beaucoup de vent, quand il y a des grandes sécheresses, il finit souvent dans la rivière la plus proche, parce qu'on n'arrive pas vraiment à le retenir. Le fait de le labourer systématiquement ou le fait de le sulfater, de le traiter, eh bien finalement ça va tuer tout ce qu'on pouvait voir du sol, c'est-à-dire les petits végétaux, l'herbe et toute cette petite plante qui vont, avec leur système racinaire, le tenir, ce sol. Aujourd'hui, quand on est dans son jardin, et qu'on veut commencer à planter au printemps des semis, il est intéressant pendant l'hiver, plutôt que de ne rien faire et que de le laisser un petit peu dormir ce sol, il est intéressant de l'activer un petit peu, de le solliciter et dans l'espoir en tout cas d'y faire pousser certaines plantes qu'on appelle souvent les engrais verts et qui vont permettre justement de ramener de la matière organique quand on les aura coupés avant de semer d'autres légumes par exemple et puis aussi de décompacter ce sol qui souvent après la canicule ou après avoir passé des engins dessus est très très dur et très très compact et donc ne laisse plus forcément passer les petits vers de terre et l'eau par exemple ou en tout cas ne laisse plus les petites bactéries faire leur travail tellement le sol est compacté. Fanny, aujourd'hui, pour préparer son sol, on parle, comme je viens de le dire, d'engrais verts. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les engrais verts ? Est-ce que tu utilises toi-même, à l'Oasis notamment, des engrais verts ?
Oui, je les utilise. Je les mets dans mes rotations de culture. C'est vraiment important. On voit une nette amélioration du sol après un engrais vert. Il n'y a pas photo. Donc en hiver, maintenant, on peut en mettre, mais on peut aussi en mettre au printemps, en été. Voilà. Et l'idée, donc en ce moment, moi, j'ai mis févrole et seigle. Mm-hmm. Enfin, j'ai pas fini, j'ai mis certaines parties du jardin, et dans les serres, là, ça va venir bientôt. C'est pas trop tard. Hein. Des fois, j'en ai mis jusqu'en novembre, quand on est à la bourre.
D'accord, donc vraiment, le mois d'octobre peut se mettre, surtout avec la saison qu'on rencontre aujourd'hui, en fait.
Même maintenant, je dirais, c'est un peu trop tôt, vaudrait mieux attendre qu'il pleuve et le faire juste avant la prochaine pluie. Parce qu'ils ont quand même besoin d'eau pour lever les graines. Mmh. Ou alors, si on a de quoi arroser,
on
l'arrose.
Si c'est une petite surface, si c'est un jardin, un potager, on peut, sur 20 mètres carrés, éventuellement arroser son engrais vert pour qu'il puisse lever et prendre plus facilement.
Arroser dans un premier temps, puis après, on ne s'en occupe pas pendant tout l'hiver. Mmh. Une fois qu'il est sorti, normalement, il va pousser tranquillement, un peu stagner, puis repartir au printemps. Et puis là, il faudra le couper avant qu'il parte en fleurs pour en faire un mulch. Mmh. Tout simplement, et après on peut replanter. Moi je remets un peu de paille quand même par-dessus.
Voilà.
Je broie tout, je remets un peu de paille, et après on replante dedans directement les tomates.
Eh bien, un mulch. Fanny, tu peux expliquer ce que c'est
un mulch ? Un mulch, c'est le fait de laisser une matière organique sur le sol. Voire ça peut être même des cailloux. Hein. Je pense qu'on peut. C'est recouvrir le sol pour justement pas le laisser à nu, donc comme disait Benjamin, pour pas qu'il s'érode, pour pas.
Pour pas qu'ils prennent le soleil trop fort non plus, ou le gel parfois, les surgèles.
Oui. Mais c'est aujourd'hui, on en parle beaucoup, la sécheresse, les manques en eau, c'est une nette amélioration. On arrose beaucoup moins quand le sol est couvert. Voilà. Et le mulch, c'est pour dire ça, on couvre le sol.
Et on parle souvent de chop and drop, c'est-à-dire qu'on va couper et laisser tomber sur le sol, et finalement ça laisse le mulch. Et il y a même certaines tondeuses maintenant aujourd'hui qui permettent de ne pas tout mettre dans le panier et qui permettent de souffler finalement la tonte décomposée pour qu'elle finalement elle se repose. Ok. Donc le concept, c'est donc on fait pousser une plante qui finalement, on va pas forcément l'utiliser pour ce qu'elle donne en général, donc par exemple le seigle, on va pas devenir boulanger et faire notre propre farine, mais on va la recouper avant la montée trop forte en graines par exemple, pour justement que toute sa matière organique, donc toute la tige, toute l'herbe, toutes les feuilles, puisse nourrir, rajouter du sol sur le sol en fait, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. Et souvent, les plantes qu'on utilise ont des propriétés aussi de fertiliser le sol, parce qu'on va souvent mélanger une céréale et une légumineuse. Donc, légumineuse, c'est par exemple le haricot est une légumineuse, les lentilles. Ce sont toutes ces plantes qui ont la capacité de capturer l'azote de l'air et de le ramener dans le sol. Donc, c'est génial. Et surtout, combiné à une céréale, ça stimule encore plus cette capacité à capter l'azote.
Donc. Et parfois, leur système racinaire, en plus, donc, est plus décompactant que d'autres. Et parfois même, leur matière organique est plus importante, comme si on mettait du tournesol, par exemple, ou des plantes qui vont avoir encore plus de tiges et qui vont rajouter finalement un paillis assez important sur le sol. Alors, comment vous faites, vous, à l'Oasis, en sachant que vous avez aussi toute une partie en serre?
Oui,
sol vivant.
On fait pareil.
À l'intérieur de la serre.
Ouais, on sème à l'intérieur des serres. Ça fait des très, très beaux couverts. Moi, j'appelle ça aussi couverts végétaux, engrais verts ou couverts végétaux, ça me paraît. Ça fait, parce que dans la serre, forcément, ça pousse encore plus. Il fait un peu plus chaud. Donc, ça fait vraiment des très belles cultures. Et puis, de temps en temps, depuis l'année dernière, on fait détruire ces couverts par les chèvres.
Magnifique.
Alors, c'est un peu de gestion parce qu'il ne faut pas que les chèvres aillent de partout pour ne pas manger les cultures en place. Et il ne faut pas qu'elles se goinfrent trop. Mais souvent, en fait, elles sont tellement contentes d'être là qu'elles piétinent beaucoup. Alors, elles ne mangent pas tout non plus.
Oui, mais ça serait un peu comme laisser un gamin dans un placard où il y a les gâteaux apéritifs.
Oui, okay. C'est souvent des...
Je vois l'image. c'est génial. On pourrait parler des heures du sol, parce que du coup, effectivement, et notamment des vers de terre, et peut-être qu'on pourrait y consacrer une émission spéciale, mais je pense qu'on le fera quand on parlera du vermicompostage. Certaines personnes utilisent aussi des cartons pour laisser le sol sous couvert pendant l'hiver. Et ça permet ça justement aux vers de terre notamment et à toute la microbiote du sol, à tous ces petits insectes qui grouillent de partout, de se reproduire, de se protéger. Et puis sur ce carton qui va se décomposer, qui va être en décomposition, on pourra aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, avant l'arrivée du printemps et des semis, remettre du petit branchage, des feuilles, de la tonte, ce genre de choses.
Ouais, moi je conseille de... En effet, si on n'a pas le temps ou tout simplement on a une pelouse et on veut faire un jardin l'année prochaine, on ne va pas semer directement un engrais vert, ça ne va peut-être pas bien marcher. Donc le carton, c'est chouette, ça occulte et les vers de terre en raffolent vraiment s'il est humide. Et donc moi, je conseille de mettre du carton à cette saison potentiellement et rajouter de la paille, mais bien 30 cm de paille ou de foin ou de feuilles mortes, une matière sèche, une matière organique. Et d'arroser s'il ne pleut pas ou de laisser la pluie. Et le carton, il ne faut plus le voir parce qu'il sèche très, très vite. Voilà. Et en effet, au printemps, on a une terre qui est superbe dessous ce carton-là.
Et qu'on va pouvoir, qui va être plus légère, moins compacte et qu'on va pouvoir travailler pour planter ses semis plus facilement. J'espère que cet échange vous a plu, que vous avez appris plein de choses. On sème aussi de la moutarde, de la veste d'hiver. On peut semer aussi de la facélie. Il y a plein de possibilités, en tout cas, pour préparer son sol. On reste disponible soit à l'Oasis pour vous en dire plus, ou même pour aller voir peut-être à l'occasion de l'hiver, sans visiter un petit peu, ça doit être possible.
J'en profite pour lancer un petit appel à bénévoles à l'Oasis en ce moment. Oui, on a quand même beaucoup de choses à faire avec la fin de l'été, le début de l'automne, donc la préparation des sols, comme on vient d'en parler. Donc s'il y a des curieux pour apprendre, vous pouvez donner un coup de main les mercredis et les jeudis.
Superbe invitation. Un peu de musique ? Merci Fanny. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Et nous revoilà avec le passage livre du mois, La vie secrète des arbres, qui arrive tout de suite. Bonjour Benjamin Flao.
Bonjour Benjamin Jaïr.
Tout va bien ?
Ouais, ça va, et toi ?
Ça va, merci. Alors, on va présenter un magnifique ouvrage qui est là, sur la table de Calade, que j'ai pu récupérer à la librairie des Marais à Villefranche cette semaine, La vie secrète des arbres. Et c'est la suite logique en dessin du livre de Peter Wolben, qu'il a écrit il y a déjà quelques temps, et que tu as pu illustrer. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur
ouais,
ce passage ?
Ben écoute, moi c'est un livre que j'avais évidemment lu. D'ailleurs, c'est un livre que j'avais pas eu le temps de le lire entièrement parce que je l'avais offert à un ami qui est forestier et qui a pour qui ça a été une révolution de lire ce livre.
Wow.
C'était assez drôle et il a plus du tout jamais travaillé pareil suite à la lecture de ce livre. Donc ça c'était vraiment chouette. Et après c'est pas ma volonté de l'avoir mis en image. C'est l'éditeur qui est venu me voir. Ça faisait, je crois, déjà quatre fois qu'ils essayaient de l'adapter. Enfin, ils avaient essayé de trouver quelqu'un. Et voilà. Et donc, moi, je leur ai proposé au scénario, je leur ai proposé Fred Bernard, parce que j'avais déjà travaillé avec lui et je savais qu'il avait aussi cette passion pour la nature, cette connaissance. Lui, il a été vraiment biberonné à la hulotte. Donc il a vraiment ce truc-là. D'ailleurs, on sent un petit peu, je pense, l'esprit un peu dans l'adaptation.
Oui, tout à fait, oui.
Et voilà comment c'est fait. Moi, j'ai pas une grande connaissance, sinon ce que j'ai pu apprendre par le livre de Peter au départ. Et puis moi, j'ai plutôt une approche poétique, un peu intuitive, un peu ouais, voilà quoi. Je suis content de pas trop savoir. Moi, je les dessine surtout les arbres, donc quand je m'approche d'un arbre, je regarde le personnage que c'est quoi déjà quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en dessine souvent, et je crois que c'est pour ça aussi qu'ils sont venus me voir. Et voilà.
Ça faisait partie de ton registre un peu, et du coup c'est ça qui les a conduits vers toi, tu penses ?
Ouais, je crois. Voilà, maintenant, l'aspect scientifique m'est un peu étranger au départ, enfin un peu moins maintenant, mais au départ, j'ai surtout une approche... poétique, quoi, intuitive, ouais.
Et on la ressent vraiment dans le bouquin. Alors, on ressent effectivement le fait que, comme tu le dessines au tout début du livre, que l'homme, avec sa comparaison de l'arbre, il a un tronc, il a des branches, etc.
Ouais.
Donc ça, c'est assez chouette à voir sur cette double page. Mais on ressent aussi toute cette poésie, ce moment où il y a un câlin aux arbres, comme ça, un peu furtivement, avec un petit cœur qui apparaît, parce que c'est de la BD et que c'est assez magique.
Même
et puis, il y a tout côté scientifique.
En tout cas, lui, si lui se défend de ne pas faire de câlins aux arbres, de ne pas avoir cette approche animiste, on va dire. Mais en revanche, c'est marrant parce qu'il a quand même une approche très anthropomorphique, quoi. Donc il y a cette double approche qu'il a, quoi.
Ouais, d'accord. Finalement, tu sens dans ce personnage-là que... Bon, il y a aussi donc toute l'approche vraiment scientifique que tu arrives à mettre en image. Et ça, c'est vrai que il y a certaines choses qu'on arrive vraiment à comprendre. Le système racinaire, quelque chose qu'on voit donc jamais, en fait.
Ouais.
De le dessiner, de comprendre finalement la longueur que ça peut représenter quand on voit ce dessin où il y a un petit arbre au milieu d'un système racinaire gigantesque.
Ouais.
Et puis après, voilà, avec le travail des champignons, la remontée de l'eau, la descente du sucre, etc. Ouais, c'est bien de voir ça en dessin.
Ben oui, je crois, en fait. Moi, je fais partie de ceux qui, comme beaucoup de gens, en fait, qui ont besoin qu'on leur fasse des dessins pour comprendre, quoi. Donc c'est parfait, quoi. Du coup, j'ai compris des choses en les dessinant.
Ouais, super.
Et voilà, j'ai essayé.
Tu as rencontré Peter, du coup,
Oui, je l'ai rencontré à Paris au tout début du
projet
de la collaboration. Je l'ai raté un peu récemment la sortie du bouquin parce que je pouvais pas être là, mais je crois qu'il est très content du résultat, dans la mesure où il nous a, alors déjà il nous a foutu une paire royale, enfin c'était vraiment il nous a dit en fait c'est une adaptation, donc vous faites vraiment ce que vous voulez, même s'il surveillait quand même de loin ce qu'on raconte pas trop de bêtises, mais ça a été chouette parce que justement on a eu pas mal de les coups des franges pour faire un petit peu ce qu'on voulait. Alors Fred est allé chercher aussi un petit peu dans d'autres livres qu'avait écrit Peter, dans lesquels il raconte un peu sa vie, lui, sa vie personnelle, quoi, son enfance, etc. Chose qui est un peu moins développée dans le livre.
Ouais. Oui.
Et voilà, donc ça c'est chouette, et je crois qu'il est, ouais, il est content, il est content. En fait, on a dû choisir aussi pas mal de choses, on n'a pas pu tout mettre, donc. En tout cas, Fred a fait un travail de réécriture qui me semble, moi en tout cas, assez intéressant parce que digeste.
Ouais. Accessible.
Accessible, quoi.
Ouais. Ouais. Et justement, j'avais une question par rapport à ça et à l'accessibilité, justement. Les écoles, la présentation de ce livre dans les écoles, comme tu le disais, toi, tu fais partie des gens qui ont besoin d'un dessin pour comprendre.
Ouais.
Mais alors, j'imagine combien il y a d'enfants qui doivent avoir besoin d'un dessin pour comprendre aujourd'hui, et surtout quand on parle de nature, et on parle de plus en plus de nature, d'environnement, etc. Ouais. Là, dans les mains, moi, j'ai l'impression d'avoir un outil pédagogique plus.
Bah exactement, en fait. C'est, moi, ça a été vraiment un des moteurs qui m'a poussé à faire ce livre, c'est de dire comment je pourrais mieux expliquer à mes enfants qu'en faisant ça, quoi. Donc, donc déjà, et effectivement, moi je me rappelle qu'à l'école, on pouvait m'expliquer tout ce qu'on voulait avec des mots, s'il n'y avait pas un dessin, je comprenais rien, quoi. Et donc, évidemment, j'espère que ça va servir d'outil pédagogique, mais je pense que oui.
C'est vraiment un message, là, je crois, effectivement, et on imagine bien tes cahiers à toi qui devaient être plus plein de dessins que de mots.
Bien sûr.
C'est génial. Ouais. Fred Bernard, Benjamin Flao, Les Arènes BD, La vie secrète des arbres. Donc l'adaptation du livre du même nom de Peter Wolben, qui était un forestier allemand. Un grand merci, Benjamin.
Bah, de rien, merci beaucoup à vous.
Et à bientôt.
Ouais, à bientôt. Bonne
Ciao,
journée.
Bye bye, salut. La vie secrète des arbres, Benjamin Flao avec nous en direct. Alors, je dois vous avouer que vous avez quand même beaucoup de chance d'avoir vécu ce moment avec nous sur Calade, puisque Benjamin est très, très pris, mais il a accepté vraiment volontiers de nous rejoindre. Alors, on a commencé par son interview, c'était plutôt une histoire, une question de timing. Je vais quand même remettre dans le contexte donc, ce bouquin de ce forestier allemand, donc Peter Wolben, qui a passé plus de 20 ans comme forestier en Allemagne, et ensuite qui s'est donc vraiment très, très vite concentré sur le côté scientifique de la forêt. Qu'est-ce que la forêt? Je vais vous lire un petit extrait tout à l'heure d'un petit peu comment le déclic est apparu en fait. Il dirige maintenant une forêt écologique, voilà, tout simplement. Il faut savoir que ce livre a été traduit dans 32 langues, qu'il est best-seller en Allemagne dès le début avec 650 000 exemplaires vendus et ensuite aux États-Unis. Je vous lis juste un petit passage du début de la BD. Alors, c'est peut-être pas évident de lire de la BD, mais j'avais envie de le faire parce que c'est un travail magnifique. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux. Vous imaginez la dernière fois que vous êtes allé en forêt où ça crépite un petit peu sous vos pieds, et c'est ce que représente là le premier dessin de Benjamin, un sol de forêt. On en parlait tout à l'heure avec Fanny. Voilà, je sais pas si vous êtes arrivé, mais en tout cas, la forêt, sa beauté m'a toujours fasciné. Étrange mélange de puissance et de délicatesse, monde végétal, plein de recoins et de mystères, parfum de mousse et d'humus, craquement de bois, cris d'oiseaux, vent dans les branches, ombres et lumières. Elle nous chuchote des mots inconnus qui pourtant nous parlent au plus profond. La forêt est incomprise et souvent maltraitée. Elle est pourtant au cœur de la vie de notre planète et elle est indispensable à la survie de l'humanité. Je m'appelle Peter Wolben, ingénieur forestier. Pendant plus de 30 ans, avec les années, je m'étais mis à regarder les arbres uniquement comme une matière première à exploiter. Je pensais productivité, rentabilité. Jusqu'au jour où « Oh là là, c'est pas banal ça !» Ce jour-là, je me trouvais dans la plus vieille forêt de hêtres de mon district. Un lieu magnifique, maintes fois arpenté, dans un étrange cercle de pierres moussues, m'interpella. « C'est pas des rochers, il y a de l'écorce sous cette mousse. » Le bois n'est absolument pas pourri, c'est incroyable ça. C'est vivant. Mais Mais alors, une seule explication à ce petit miracle ? Les êtres alentours avaient maintenu en vie cet étrange cercle de bois de 1,30 m de diamètre. Ils doivent lui refiler une solution de sucre via leurs racines. Ils sont toujours reliés. Ils ne l'ont pas laissé crever. L'ancienne souche d'un vénérable être abattu il y a 400 ans, peut-être 500, n'avait pas dit son dernier mot. J'étais éberlué. Les arbres avaient-ils une organisation sociale structurée comme celle des fourmis ? Voilà, ça c'est l'introduction du bouquin. C'est quand Peter, eh bien, se promène en forêt et qu'il se retrouve au-dessus d'une énorme souche d'arbres qui a complètement disparu finalement sous la mousse. Et puis, avec son petit canif, on voit bien là dans la BD, dans les dessins, il va gratouiller un peu tout ça et se rendre compte qu'il y a une vie phénoménale là-dedans. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il a vraiment le plus marqué, dans son histoire de forestier et qui l'a fait vraiment passer à autre chose qu'à ce qu'il énonce au début comme une forêt, c'est de la productivité, du bois à vendre, à couper. Voilà, il en a découvert tout autre chose. Voilà, ben j'espère que ce livre du mois, en tout cas ces livres du mois finalement, vous ont plu. Je vais vous parler maintenant de forêt, encore de forêt et d'une balade. Je vous en avais parlé lors de la première émission. J'ai eu une envie de vous emmener en forêt. Alors comment à la radio on peut partir en forêt ? Eh bien, on va sortir du studio. On va le 19 novembre avec Calade se retrouver dans une forêt autour du col de Saint-Bonnet, dans le Beaujolais, au-dessus de Montmelat, entre Montmelat, Saint-Cyr-le-Château et Vaux-en-Beaujolais. Et on va partir en promenade. On va partir en promenade pendant deux bonnes heures avec notre pique-nique dans notre sac et on va observer, je vais en tout cas vous montrer, une forêt exploitée, une forêt sauvage, une forêt plus jeune, une forêt plus récente, pendant deux petites heures de marche. Et puis on arrivera à la chapelle de Saint-Bonnet qui domine tout le Val-de-Saône et on pourra pique-niquer tous ensemble et terminer nos échanges là-dessus. Ça démarrera à 9h30 le matin et on pourra pique-niquer 2-3 heures plus tard tous ensemble. Il y aura une petite participation de 5 € qui vous sera demandée et pour s'inscrire, eh bien, je vous donne le mail de Calade, contact@radio-calade.fr. Africa, 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 Africa minha, Africa nossa. Africa, 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 Africa minha, Africa nossa. Seu Jacques Larian, consciência já desanuviou, já chegou a hora. Para enfrentar a realidade, um povo sofredor, já calma a dor, para viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, manhã África dá ser feliz um dia. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo, continente fecundo. Dicante que Senegal acaba permanece o reul. Sumo e abone, nhari reu e benele. Sama gente que mangue nhan e ala o mon mako. África don benere onda ria de sonhuia. África, 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 Yamanga Yelo, Yamanga Ifanan. África, 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 Yamanga Yelo, Te Yamanga Ifanan. Consciência já desanuviar, já chega a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor
chacun m'a cédé par revivre na pagina progresso. Africa, 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 Africa minha, Africa nossa. Africa, 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 berço de mundo, continente fecundo. Tomo Africa, nani bolo de Japante, punho Japante, gana amdole. Con sama gente gi mangi nyan yalla wan mako. Africa don ben rew, ndax modi suñu yaay. Africa, 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 jamanga yelo, jamanga ifana. Africa, 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 jamanga yelo, te jamanga ifana. Africa suñu.
Vous pouvez continuer à terminer vos derniers pas de danse après cette magnifique chanson Africanossa de Ismaël Lo et Cesaria Evora. Ismaël Lo, que j'ai eu la chance de voir dans les années 95-98 au Sénégal en concert, c'était assez magique. Alors pourquoi une chanson d'Ismaël Lo? Bah parce que on arrive dans cette dernière partie de l'émission et comme de coutume, on va voyager jusqu'à Kabadio au Sénégal. Alors petit rappel rapide, Kabadio, c'est un village de Casamance, une région du sud du Sénégal, une région enclavée. Enclavée parce que géographiquement, elle se retrouve appartenir au Sénégal, mais entre un pays au nord qui s'appelle la Gambie, un pays anglophone, et un pays au sud, une ancienne colonie portugaise, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry tout de suite derrière. Voilà ce que c'est qu'un pays, une région en tout cas enclavée au bord de l'océan Atlantique. Kabadio, c'est un petit village à une centaine de kilomètres de la capitale régionale de Casamance, donc Ziguinchor. Et à Kabadio, on y trouve une ferme d'insertion. Alors, on était avec Fanny tout à l'heure de l'Oasis. Eh bien, on est un petit peu sur un concept similaire, puisqu'on va accueillir dans cette ferme, depuis déjà une vingtaine d'années, des jeunes hommes, puisque c'est plus facile dans un même lieu d'accueillir des hommes ou des femmes, mais plus difficile d'accueillir la mixité, mais ça viendra, j'espère, comme à l'Oasis prochainement. Ces jeunes hommes, ils sont issus soit de l'échec scolaire, et donc du coup, ils n'ont pas pu continuer leurs études pour différentes raisons. Alors parfois, c'est les moyens qui manquent à la famille pour permettre aux jeunes de continuer les études. Et puis parfois, c'est d'autres raisons. C'est que le système n'est pas forcément adapté. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Afrique de l'Ouest, on est vite dans des classes surchargées d'une cinquantaine, d'une soixantaine d'élèves et où chacun n'a pas forcément sa place, où les enseignants ne sont pas forcément formés non plus et ne peuvent pas forcément mettre en place de techniques pédagogiques très adaptées à des groupes si nombreux. Donc du coup, certains jeunes décrochent. C'est ce qu'on appelle ici les décrocheurs. Et se retrouvent finalement livrés à eux-mêmes. Ils sont souvent tentés par l'exode, en premier lieu vers l'Europe, puisque c'est un petit peu l'Eldorado, mais aussi ils sont tentés pour apprendre un métier, ils sont tentés pour rejoindre justement cette ferme d'insertion qui s'appelle Bindoula, dans le village de Kabadio, et que l'on a créé avec l'association Perma Kabadio en 2004. Ces jeunes, donc on les accueille, on les reconstruit un petit peu, puisque certains ont vécu des parcours un petit peu difficiles avant d'arriver jusque-là. Ceux qui en tout cas ont tenté de partir en Europe, ça n'a forcément pas été facile pour eux tout le temps. Les conditions d'exode, on vous les a présentées dans une émission le 10 septembre, en direct de l'Oasis avec Khaled. Les conditions d'exode sont très difficiles, et donc ces jeunes sont marqués au plus profond de leur chair parfois et de leur âme, parce qu'ils ont vécu. Et du coup, ils se retrouvent dans un lieu avec une trentaine d'autres jeunes, une famille, et régulièrement des séjours d'occidentaux qui passent pour faire des formations en tout genre. Et donc, du coup, ils se reconstruisent. Et ils se reconstruisent autour de la permaculture, autour du maraîchage et autour de certains petits métiers, le transport, la fabrication de contenants, la fabrication de maisons aussi, de bâtiments, l'installation de panneaux solaires. Et tout ça, finalement, ça leur refait finalement une petite formation, une petite école. En ce moment, à Cabadio, et c'est surtout l'objet aujourd'hui de ce que je vais vous apporter, eh bien c'est la saison des pluies qui va bientôt prendre fin et qui a démarré au mois de juillet. Et cette année, la saison des pluies a été un petit peu légère. Alors la saison des pluies, c'est la deuxième saison des pays en zone tropicale. On a la saison sèche qui dure en général 8 mois, de novembre à juin, et on a la saison des pluies qui dure 4 mois, de juillet à octobre ou novembre. Et cette saison des pluies, qui va se terminer là, eh bien cette année notamment, elle a été toute légère, toute petite, et le riz n'a même pas pu pousser. Alors que ces villages, comme tous ceux qui sont en bord d'océan, eh bien, vivent beaucoup de riziculture. Donc la riziculture, ben, c'est comme en Asie, ça se passe dans les rizières. Les rizières sont séparées de l'océan par la mangrove et par certaines dunes. Ces dunes vont garder le sable, vont garder le sel qu'aura déjà filtré en grande partie la mangrove et vont permettre à l'eau douce de s'installer dans des rizières qui sont souvent des zones un petit peu plus basses, même plus basses que l'océan parfois, et donc qui sont en dessous du niveau de l'océan. Dans ces rizières qu'on va inonder avec l'eau de pluie, donc pendant la saison des pluies, eh bien on va venir planter nos semis de riz. C'est des grains qu'on a laissés germer de l'année précédente. Et on va du coup les planter à la main, grain par grain, dans la vase, dans la boue que nous propose en tout cas la rizière inondée. Et puis quelques mois après, quand l'inondation a bien duré, a été longue de plusieurs mois, en novembre, donc là, dans quelques jours, on va normalement ramasser le riz. Eh bien, cette année, à Cabadio, notamment, ou en tout cas en Casamance, il y aura très peu de riz, la saison des pluies n'ayant pas été très abondante. Alors, comment faire dans ces cas-là? Eh bien, il y a justement, on parle de permaculture, il y a justement la possibilité aujourd'hui de changer un petit peu le mode alimentaire. Et cette saison des pluies qui faisait un petit peu focus sur la riziculture, eh bien, correspondait un peu à de la monoculture. L'idée aujourd'hui, c'est que pour que ces populations s'en sortent, à ces périodes-là de changement climatique, l'idée, c'est qu'elles puissent produire autre chose et consommer ce qu'elles produisent. Alors du coup, de plus en plus, elles se posent ces questions-là de le riz, le tout riz. Est-ce que c'est vraiment une solution pour se nourrir? Eh bien, je crois que cette année, force est de constater que ça ne le sera pas. Alors, il y a d'autres céréales qui peuvent être plantées en Afrique de l'Ouest, comme le mil, par exemple, issu du millet, qui pousse très bien et qui n'a pas besoin forcément d'être inondé, qui va pousser beaucoup plus dans les champs. Donc avec un arrosage de pluie, ça va lui permettre de pousser et justement de nourrir les populations quand on pourra le récolter. Et puis il y a le potager, le jardinage, de travailler sur d'autres exploitations de légumes, de légumes potagers, pour arriver à se nourrir tout au long de l'année. Et ça, c'est un nouvel apprentissage, puisque depuis que le riz a été installé dans les années 60 par la Chine et qu'il est vraiment monté en puissance dans les années 80 et qu'il a détrôné toute autre forme d'alimentation, eh bien du coup, il est difficile de se souvenir, en tout cas les grands-parents ou les personnes qui cultivaient autre chose, bah, bien souvent déjà nous ont quittés, eh bien il est difficile de se souvenir comment on peut planter autre chose que du riz. Eh bien, c'est là que nos associations interviennent. C'est là que tout un chacun qui a des compétences en maraîchage, en jardinage, en agroforesterie, eh bien, peut réintervenir dans ces régions. Et c'est ce qu'on fait avec des formations ponctuelles, annuelles, régulières, pour réapprendre à la jeunesse. Donc, cette jeunesse en échec scolaire, cette jeunesse de décrocheur ou cette jeunesse qui a tenté l'Europe plusieurs fois, eh bien, de se raccrocher à un savoir, de se raccrocher au maraîchage. Et grâce à ça, on se retrouve aujourd'hui dans des zones qui sont d'une part reboisées, qui sont reverdies, et donc où le sol est retravaillé, le sol devient plus riche avec des techniques comme on vous l'a présenté tout à l'heure avec Fanny, de replanter des engrais verts, de mulcher le sol, et donc du coup de se retrouver avec un sol enrichi en matière organique pour de nouveau planter des légumes, de nouveaux arbres fruitiers. On utilise plein de techniques permacoles, comme notamment le carré magique, que je pourrais vous détailler dans une prochaine émission. Et ces techniques-là permettent à ces jeunes de se nourrir, peut-être, on peut le dire tout simplement, vraiment de reprendre possession de leur alimentation. Voilà, c'était la petite parenthèse Cabadio. Donc j'espère que je vous ai fait voyager un petit peu jusqu'en Casamance. Je vais vous annoncer le sommaire, plus ou moins, en tout cas l'objet de la prochaine émission qui aura lieu donc fin novembre, qui sera sur comment planter des arbres. Et avant de nous quitter, je vais vous lire un petit passage de ce livre, La vie secrète des arbres, que l'on a présenté aujourd'hui avec notamment cette interview téléphonique de Benjamin Flao. Et puis on se quittera là-dessus en se disant à la prochaine. Le monde souterrain. Le sol est pour nous, humains, encore plus opaque que l'eau, au sens propre comme au figuré. Si le fond des océans est moins exploré que la surface de la Lune, la vie souterraine l'est encore moins. Nous ne sommes pas totalement ignares. Quantité d'espèces et de phénomènes sont déjà connus. Mais comparé à la diversité de la vie, qui s'agite sous nos pieds, c'est infime. La biomasse d'une forêt se trouve pour moitié dans cet étage inférieur. La plupart des organismes qui y vivent sont invisibles à l'œil nu. Sans doute, cela explique-t-il, que nous leur manifestons moins d'intérêt qu'aux loups, aux piques noires ou aux salamandres, alors que leur rôle est peut-être plus important pour les arbres. Les grands animaux ne sont pas indispensables à une forêt. Chevreuils, cerfs, sangliers, carnassiers, et même une grande partie des oiseaux ne laisseraient pas un vide dramatique dans l'écosystème. Ils pourraient tous disparaître en même temps que la forêt continuerait de pousser sans grande perturbation. Il en va tout autrement des créatures microscopiques de l'étage souterrain. Une poignée de terre forestière contient plus d'organismes vivants qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Une cuillerée à café contient déjà à elle seule 1 kilomètre de filaments de champignons. Tous ces organismes ont une action sur le sol. Ils le modifient, l'amendent, lui donnent sa valeur pour les arbres. Merci et à bientôt en novembre.
Calade
100.9
En mode perma. Votre émission mensuelle consacrée à la permaculture.
En réécoute sur radio-calade.fr.